Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Gabriel Debreuil, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, membre de l'Académie française. Vous avez été élu en 2001 au fauteuil d'Alain Perfit. Mais vous êtes également membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1997. Nous reviendrons sur l'Académie, plus tard sur cette Académie spécifiquement. Vous avez été élu en 2005 chancelier de l'Institut, succédant à Pierre Messmer. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, une biographie de Mac Mahon, Guizot. Vous avez travaillé sur l'histoire de la revue des Deux Mondes, qui est la plus vieille revue de France. Vous avez enfin travaillé sur le libéralisme ou encore l'orléanisme. Alors récemment, vous avez présidé un colloque organisé par la Société d'histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, un colloque autour de François Guizot. Faut-il le rappeler, François Guizot est né à la fin du XVIIIe siècle dans cette belle ville de Nîmes, en 1787. Or, les éditions L'Harmattan viennent de publier les actes de ce colloque intitulé sobrement « François Guizot 1787-1874, passé, présent », des actes réunis par Robert Chamboredon. Alors une occasion pour nous de revenir, monsieur le chancelier, de nous arrêter à nouveau sur ce personnage qui, avec Adolphe Thiers, a dominé son siècle, a dominé le XIXe siècle. Un fait peut-être, il s'agit de rappeler que c'est François Guizot qui a créé l'Académie des sciences morales et politiques.
Oui, bien sûr, il est tout à fait opportun de le rappeler à Canal Académie. Il a rétabli une académie qui avait été créée en 1795 dans le sillage des Lumières, disons, et annoncée par Condorcet, supprimée en 1803 par le Premier Consul, au motif que les sciences morales et politiques, il n'était pas sûr qu'il y en ait, et que de toute façon, il n'était pas souhaitable pour lui que les tenants de cette nouvelle discipline s'expriment. Et lorsque les académies ont été rétablies en 1816, la monarchie restaurée a rétabli les académies, elle n'a pas rétabli l'Académie des sciences morales et politiques, qu'elle n'avait pas créée d'ailleurs, puisque c'est une création de 1795 de la Convention. Et donc il a fallu attendre 1832, en effet, Guizot au pouvoir, pour que l'Académie soit rétablie par la monarchie de Juillet, par Louis-Philippe, dans une démarche très réfléchie et tout à fait déterminée, qui est qu'il y a des sciences morales et politiques, le titre même devant être compris de manière cumulative, n'est-ce pas ? Ce sont des sciences morales et politiques, c'est pas des sciences morales et des sciences politiques, ce sont des sciences qui sont morales et politiques. Et c'est une notion héritée des Lumières, de l'esprit encyclopédiste, et de l'esprit libéral et progressiste qu'on a vu à l'œuvre en 1789, 1791 probablement, et puis qui a subi une éclipse profonde et que Guizot s'est efforcé de faire revivre pendant la Restauration, puis au pouvoir sous la monarchie de Juillet.
Le sens vraiment de morales et politiques est celui que vous le donnez, hérité de la philosophie des Lumières. Le sens de morales et politiques au XVIIIe siècle est le même qu'en l'époque de Guizot.
Je pense que oui. Les formulations ont été faites à la fois par Condorcet, Daunou, l'abbé Grégoire, et c'est très directement inspiré de l'esprit des philosophes et de l'encyclopédie. C'est une notion de progrès, c'est une notion de progrès appliqué à la chose politique, à la société. Certains esprits théoriciens avaient voulu aller plus loin et disant qu'il fallait inventer pour faire progresser les choses vraiment et que le gouvernement de la société aille sur des bases scientifiques, il fallait inventer une mathématique sociale et que ça serait la solution de tous les problèmes politiques. Donc, ça va assez loin, n'est-ce pas ? Mais je crois qu'on peut adopter des nuances, on peut penser que la conception en 1832 et sous la monarchie de Juillet est peut-être un petit peu plus teintée d'économie politique, de libéralisme économique, que ça ne l'était au XVIIIe siècle, sous les Lumières. Mais l'inspiration à l'esprit est bien le même.
Nous reviendrons sur l'idée de progrès, parce qu'elle est importante dans l'œuvre de Guizot, comme elle est importante dans l'œuvre d'un Tocqueville ou bien d'un Chateaubriand. Alors, Guizot est un personnage extrêmement riche. Vous avez écrit que François Guizot était marqué par une tension, celle entre l'historien, car il fut un grand historien, et le gouvernant, car il eut de larges responsabilités politiques.
Oui, et c'était d'ailleurs l'une des forces de ce colloque auquel vous faisiez allusion, qui est un colloque extrêmement riche, n'est-ce pas ? On s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs colloques à propos de Guizot, et Ils s'accumulent en connaissances, en mise au point, mais aussi en approfondissement de la réflexion sur Guizot. Et ce colloque de Nîmes, donc le premier colloque Guizot à Nîmes, a été particulièrement riche, très bien préparé pendant 4 ans.
Je me permets peut-être de vous couper. Est-ce que, historiographiquement parlant, Guizot a été un sujet d'étude longtemps oublié? Est-ce qu'on redécouvre Guizot aujourd'hui?
Oui, absolument. On le redécouvre depuis longtemps, enfin depuis quelque temps. Le premier à l'avoir vraiment redécouvert, c'est Pierre Rosanvallon, qui a écrit Le Moment Guizot. Mais Le Moment Guizot, pour lui, pour Pierre Rosanvallon, c'est le Guizot doctrinaire de la Restauration. Le laboratoire d'idées que représente le courant doctrinaire sous la Restauration, il n'est pas encore à l'épreuve du pouvoir, mais à l'épreuve de la conception, de la formulation des principes qui devraient gouverner le gouvernement de la France nouvelle. Et je crois que le livre de Rosanvallon a plusieurs décennies déjà. À la suite, plusieurs études ont été publiées sur Guizot, certaines excellentes, des colloques ont été tenus. Moi, j'ai établi la biographie, une biographie politique, disons.
Paru chez Perrin.
Mais la biographie, parce que j'ai eu la grande chance que les héritiers de Guizot, qui ont conservé toutes ses archives, tous ses papiers, il a toujours conservé tous ses papiers toute sa vie, il a vécu très longtemps, n'avaient jusqu'à présent pas voulu donner accès à ce fonds, à des historiens. Et j'ai obtenu l'autorisation très libérale de consulter l'ensemble des archives Guizot. Et ça a permis d'écrire la biographie. Alors après, Laurent Theuys a écrit un livre qu'il connaît extrêmement bien,
que j'ai reçu ici,
pensée politique de Guizot. Et il a écrit un livre qui est un essai intellectuel et politique sur Guizot. C'est à la fois très complet, très riche, très nuancé comme appréciation, mais il ne prétend pas être une biographie, avoir fait une biographie. Et alors, le colloque, lui, était une sorte de radiographie de l'état des connaissances sur Guizot passé-présent, ce qui est une formule un peu ambiguë. Qu'est-ce que ça veut dire passé-présent?
Passé-présent par rapport à lui ou
oui,
bien par rapport à nous?
Voilà, par rapport à l'époque, par rapport à nous. Je me suis amusé à décliner cela dans la conclusion que j'ai apportée au colloque. Mais en tout cas, ça voulait être assez complet, et notamment la dernière partie, l'avant-dernière, c'était Guizot aujourd'hui, alors ça c'est un point d'étude. Mais l'avant-dernière, c'est le gouvernant et les raisons de son échec. Et c'est ça la grande question, n'est-ce pas? C'est Guizot est un professeur, un historien puissant, avec des vues sur l'histoire de la civilisation et le progrès de la civilisation qui ont été fondatrices par l'ampleur de la documentation réunie, par l'ampleur des connaissances et par la profondeur des vues. Ces leçons ont été suivies de manière enthousiaste par des foules d'auditeurs. Donc c'est un historien, professeur, qui, à l'épreuve de fonction publique, devient en 1816 doctrinaire. C'est-à-dire que, à partir de sa connaissance de l'histoire, il contribue à l'émergence d'une doctrine doctrinaire, ce qui convient à la France moderne sortie de la Révolution. Comme maintenant que 1816, tout ça est terminé, alors bâtissons une société moderne, efficace, moderne, et qui soit gouvernée de manière moderne, progressiste, libre, libérale. Alors, c'est un mouvement qui a eu beaucoup de résonance et qui n'a peu inspiré le gouvernement de la Restauration. Guizot y a participé à un moment comme haut fonctionnaire. Il a été secrétaire général de ministère, ce qui n'est pas rien, y compris du ministère de l'Intérieur, ce qui est loin d'être faible. Et puis, petit à petit, l'évolution de la Restauration a fait que lui-même s'est senti exclu de cette évolution. Il est resté doctrinaire, libéral, et recherchant un gouvernement parlementaire, il a été démis de ses fonctions, il est entré dans l'opposition, et il a préparé l'avènement d'un régime conforme à ses vœux, qui a été la monarchie de Juillet.
Alors, je vais m'arrêter sur le professeur avant de passer à la monarchie de Juillet. Bon, il va recouvrir sa chaire, hein, et il va reprendre son cours sur l'histoire de la civilisation en Europe. Et vous dites que c'est là où il est, en quelque sorte, au sommet de son art. C'est véritablement le professeur, le grand historien. Et généralement, il est considéré comme un personnage ayant créé une école, l'école philosophique historique. Est-ce que c'est une notion juste?
Vous mettez le doigt sur une question. C'est que Guizot a formulé sa pensée en l'enseignant et en découvrant la matière de son enseignement, pas en l'enseignant.
C'est le créateur.
C'est un créateur. Il a... Et au point que, ayant étudié vraiment les méthodes de travail de Guizot dans le détail, je suis incapable de dire comment il a réuni la documentation qui lui a permis d'élaborer ses conceptions profondes et ses vues très larges. En particulier, il a écrit 23 volumes, je crois, de collection des mémoires historiques de l'histoire d'Angleterre.
Alors qu'il n'est jamais allé en Angleterre.
Il n'est jamais allé en Angleterre et personne ne sait comment il a établi 23 volumes, n'est-ce pas, de documents anciens, des chartes, les fameuses chartes des villes, qui sont le fondement du régime politique de l'Angleterre. Et il les a publiés et les historiens anglais eux-mêmes disent, lorsque nous voulons nous référer à des documents très anciens, 12e siècle, 13e siècle, la Grande Charte et début du 13e siècle, nous avons recours à la publication de Guizot parce que ce sont les textes les plus fiables. Comment les a-t-il réunis? Personne n'en sait rien. C'est très curieux, n'est-ce pas? Alors, même chose pour la collection des mémoires relatifs à l'histoire de France. Donc, c'est quelqu'un qui a élaboré une histoire de la civilisation, des progrès de la civilisation, très sûre, très documentée, très largement documenté, selon des recettes qui lui sont personnelles et qu'il n'a pas dévoilées. Alors, la tendance serait de dire, c'est donc de la philosophie. Et il a réussi, ayant cette philosophie, il a réussi à l'asseoir, a posteriori, sur des données documentaires. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je crois qu'il réunit, comme beaucoup d'autres à l'époque, Fauriel, Augustin Thierry, n'est-ce pas, les historiens travaillaient sur ces questions, découvraient ces questions de l'histoire sociale, de l'histoire du terrain, de l'histoire des villes, de l'histoire des professions anciennes, de l'ancienne France. Guizot a découvert cela, la matière, et à partir de là, il a élaboré une histoire de la civilisation, c'est-à-dire des progrès de la civilisation. Alors, cette histoire est-elle de philosophie politique? Je crois que oui, mais établie comme ça. Ce n'est pas une philosophie conçue abstraitement et à laquelle on a ajouté des éléments de documentation pour l'asseoir. Non, c'est une œuvre d'historien qui débouche sur une conception de philosophie politique bien claire, très pure, n'est-ce pas ? Très, très inspirée de l'Angleterre, bien entendu. C'est, d'une certaine manière, c'est l'adaptation française d'idées politiques anglaises qui existaient depuis très longtemps.
Chez Guizot, vous le dites d'ailleurs, dans une intervention qui est disponible sur le site de Canal Académie, une intervention que vous avez faite à l'Académie des sciences morales et politiques il y a 3 ou 4 ans, vous dites que, en fait, c'est un historien, il n'était pas là pour présenter les faits. L'histoire narrative s'apprenait au fond avant, les élèves se devaient de connaître les faits, mais ce qui était intéressant chez Guizot, c'était l'explication. Son histoire était explicative.
Oui, oui. L'interprétation d'un très grand ensemble de faits. N'est-ce pas là, la nuance que je voudrais apporter, c'est que, en effet, l'histoire, à l'époque, n'est pas l'enseignement des faits, mais l'histoire part d'une connaissance des faits. L'originalité chez Guizot, c'est que l'interprétation historique part d'une extraordinaire quantité accumulée de faits. Et là, c'est son apport, n'est-ce pas ? Et c'est que tous les historiens ont salué l'exploit de partir d'une immense quantité de faits et d'aboutir sans gêne, sans lourdeur, à une conception extrêmement épurée du chemin d'ensemble, n'est-ce pas ? Du progrès de la civilisation au cours des siècles venant du haut Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières.
C'était l'époque vraiment du professeur, où le professeur était un personnage public. On a du mal à concevoir aujourd'hui des personnages qui écrivent comme cela 20 ou 25 tomes sur un sujet.
Oui, oui. Alors c'est aussi au 19e siècle, n'est-ce pas ? De mon point de vue, le 19e siècle apporte à notre siècle une immense leçon, c'est que c'est le siècle des laborieux. C'est le siècle du travail. Ils ont tous travaillé. Follement, les grands génies, les grands... Mais on est toujours stupéfait de voir la quantité de travail que pouvait abattre un Victor Hugo, un Balzac. C'est stupéfiant. L'extraordinaire quantité d'un Sainte-Beuve, ce sont des laborieux. Et Guizot est un laborieux, une œuvre de 80 volumes et érudite, entièrement érudite.
Alors l'historien va devenir homme politique, c'est ce que nous allons voir, monsieur le chancelier, après la première pause.
Les membres de l'Académie française et d'autres académies, des écrivains de tous horizons, des grands lecteurs venus du monde de l'édition et de la traduction, ou encore des artistes, nous parlent de leur coup de cœur littéraire dans l'émission « Au plaisir d'insolence » animée par Elisabeth Antebi. Restituer le plaisir de lire, de rêver, de laisser se déployer les mots, revivre les discussions à bâtons rompus, nourris de lectures croisées des salons d'autrefois. S'amuser, s'émouvoir, faire parler un écrivain qui marque notre mémoire, notre vie, ou parler d'une œuvre qui a trouvé en nous des échos. Tel est le projet de cette émission « Au plaisir d'insolence » à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Gabriel Debreuil, auteur d'une biographie de Guizot, et vous avez présidé, Gabriel Debreuil, très récemment, un colloque consacré à ce personnage, un colloque qui renouvelle véritablement la vision historiographique que l'on peut avoir de ce personnage qui domine ce 19e siècle. Alors, nous avons vu l'historien. Il y a en fait trois moments dans la vie de Guizot. Il y a d'abord le professeur, après il y a l'homme politique. Passons à l'homme politique, si vous le voulez bien. Quel est ce rôle politique ? Je disais tout à l'heure qu'il y a cette tension entre l'historien et le gouvernant. L'historien, visiblement, il connaît les faits. Est-ce que, selon l'adage d'Auguste Comte, savoir pour prévoir afin de pourvoir, est-ce que l'historien qu'il fut, le professeur qu'il fut, a utilisé l'histoire comme une sorte de laboratoire de l'homme politique pour pouvoir travailler en tant qu'homme politique ?
Et je crois que c'est le cas, c'est l'historien au pouvoir. Guizot est un des exemples, pas tout à fait le seul, mais enfin le plus emblématique, beaucoup plus que Thiers évidemment, de l'historien au pouvoir. Et avec des vues théoriques qu'il a formulées auparavant et qu'il applique dans une action gouvernementale très large, qui va d'ailleurs s'élargir tout au long de la monarchie de Juillet. Il est au départ un ministre technique et très vite il élargit son action à l'ensemble du gouvernement de la société. Il le fait à partir de ses œuvres et de ses vues sur l'histoire de France, à partir aussi de son analyse de l'histoire d'Angleterre. Elle est très inspiré, n'est-ce pas ? L'expérience de la monarchie du Juillet est directement inspirée de la révolution anglaise de 1688, qui est donnée comme un modèle. Lorsque les choses ne vont pas et qu'il faut faire une révolution libérale, eh bien, il faut changer la dynastie. Et si on peut substituer la dynastie sans faire de drame ni de violence, eh bien, on a fait progresser les choses. C'est ce qui a été tenté en 1830. Alors Guizot participe pleinement à ce mouvement. D'ailleurs, il y participe, il y est appelé par sa compétence. Il n'a pas de relation directe, en tout cas pas avec Louis-Philippe, avec le duc d'Orléans, il ne le connaissait pas. Il a des amis, évidemment, mais c'est surtout, il est appelé comme un homme indispensable. En 1830, il arrive à faire déboucher le mouvement, qui est lui révolutionnaire, vers une modification constitutionnelle très importante, qui est l'établissement d'une charte nouvelle, une charte libérale et parlementaire. Il a un allié dans cette tâche, dans ce travail, qui est Victor de Breuil, qui est un autre des doctrinaires, n'est-ce pas, la même famille d'esprit, mais qui n'est pas du tout un professeur, et qui est un historien, qui sera un historien par la suite, mais qui ne l'est pas encore. Donc ce sont des historiens au pouvoir, incontestablement. Guizot est d'abord un ministre technique. Une fois au pouvoir, il est ministre de l'Intérieur, il s'occupe de remettre en ordre l'administration, il fait une épuration comme tout le monde, n'est-ce pas ? Assez faible d'ailleurs, mais tout le même, parce qu'il y a un changement de régime. Mais surtout, assez vite, il se consacre aux questions d'éducation, d'instruction, et il devient ministre de l'Instruction publique.
On parlait d'instruction publique et non pas d'éducation à l'époque.
Oui, l'instruction, c'est ça. En 1832, il le restera jusqu'en 1837, donc une longue période ministérielle, et qui va être couronnée par la loi Guizot, la loi sur l'extension, la généralisation, si on veut, de l'enseignement primaire en France. Un acte fondateur.
Oui. Il y a une chose que j'ai apprise en lisant les actes de ce colloque, c'est que aujourd'hui, les élèves qui sont réunis en face d'un professeur, une classe, j'allais dire, de 20, 25, maximum 30 élèves, on le doit à Guizot. Il y avait ce qu'on appelait le mode d'enseignement individuel, simultané ou bien mutuel. Et lui, alors que c'était le mode individuel, c'est-à-dire le professeur s'adressait individuellement à chaque garçon pendant un temps, là, il va y avoir l'enseignement à une classe d'une vingtaine de personnes.
C'était un grand choix. Et c'est une conception assez belle, disons, de l'instruction et du rôle du professeur, n'est-ce pas, qui n'est pas seulement un maître qui donne des ordres ou des orientations à un élève, c'est un personnage qui exerce une fonction publique. Guizot en a eu clairement le sentiment, et il a installé ce personnage central dans la société française du XIXe siècle, qui est l'instituteur. Il y aura une école dans chaque commune, et un instituteur dans chaque école. La grande loi Guizot, c'est ça. Et l'instituteur se trouve enseigner l'ensemble de la classe et délivrer un message qui est utile, évidemment, d'enseignement. Alors, les programmes sont là pour montrer que c'était une instruction solide, mais en même temps pour enseigner une conception de la société avec le rôle de cette hiérarchie intellectuelle. Parce qu'il y a toute une hiérarchie, n'est-ce pas ? Il y a un conseil cantonal de l'instruction, il y a les écoles normales primaires, qui sont une construction très originale, qui offre un débouché à l'enseignement primaire pour ceux qui ne font pas d'enseignement supérieur. Enfin, il y a toute une construction, il y a des inspecteurs, les instituteurs ne sont pas laissés dans la nature, ils appartiennent à un ensemble et forment un corps et qui a une dignité, l'instituteur a un traitement. C'est une grande nouveauté, n'est-ce pas ? Auparavant, les instituteurs, c'était ou des petits frères des écoles chrétiennes ou des gens qui n'avaient pas de traitement. Tandis que là, l'instituteur est nommé, il a un traitement, il est dans la commune, un des personnages à côté du maire et du curé. C'est toute une conception de la société.
Alors, nous parlions tout à l'heure du créateur sur le plan de la pensée, de la vision historique politique, la philosophie politique. Il crée aussi des écoles, mais il crée des musées, il crée des académies. Nous parlions de l'Académie des sciences morales et politiques. Et il crée surtout la mémoire de la France. Il y a ce travail extraordinaire d'archivage qu'il commence et qui fait, au fond, la joie des historiens aujourd'hui.
Oui, mais qui demeure, d'ailleurs. Les fondations qui ont été jetées à cette époque-là demeurent. Le comité des travaux historiques existe toujours. Les publications, les immenses publications ont été commencées à peu près à cette époque-là et continuent. Les ordonnances des rois de France, tout ce travail de mise en lumière et d'interprétation des grands textes, tout cela a été savamment mis intentionnellement, de manière très... C'est là que le doctrinaire intervient, n'est-ce pas ?
Systématique.
Très systématique. Et donc, création de sociétés, d'histoire, d'archéologie, mais aussi d'histoire dans les provinces, dans toutes les villes.
Finalement, la société d'histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard est héritée de...
Voilà, exactement. Voilà. Les antiquaires de Normandie, voilà, c'était des sociétés très vivantes, des petites académies. Et il y a alors cet immense pan de la politique de l'État en faveur du patrimoine national, de l'histoire nationale et d'une réunion de toutes les parties de l'histoire nationale dans un bien commun. Car il ne suffit pas de restaurer les monuments, n'est-ce pas ? Il a lancé tout le régime des monuments historiques en France, date de Guizot. Mais il ne suffit pas à cela, il faut réunir tous ces éléments en une identité de la France moderne. Alors il a consacré beaucoup de gestes politiques, gouvernementaux, la restauration du palais de Versailles que Louis-Philippe a décidé, ils étaient pleinement d'accord là-dessus. Beaucoup de gestes, l'arc de triomphe de l'étoile pour réunir la tradition impériale avec la dynastie de la monarchie de Juillet, le retour des cendres de Napoléon, c'est un geste. La colonne de la Bastille, c'est un geste aussi. Tout cela a été établi à ce moment-là pour réunir ce qui a divisé les Français pendant trop longtemps, pour les réunir dans un ensemble de souvenirs communs qui constitue la France nouvelle. Tout cela est fait aussi pour rassembler, raccommoder les différentes parties. Alors par exemple, dans Versailles, il y a tout. Il y a le palais de Versailles en soi, c'est un geste. Mais dans le palais de Versailles, il y aura la salle des généraux de la Révolution. Ils n'avaient pas forcément leur place là, mais ils, n'est-ce pas Guizot, met une salle, un grand salon d'ailleurs, qui existe toujours, des généraux de la Révolution. Et puis, en même temps, il y a la salle des croisades. Et il y a deux grandes salles magnifiquement décorées qui réunissent tous les souvenirs des croisades et les souvenirs de toutes les familles qui ont participé aux croisades. Tout ça, c'est un geste en direction de l'ancienne aristocratie. Donc, tous ce sont des gestes de rassemblement qui réussissent très bien à l'époque.
Qu'on reverra peut-être même au tout début de la Troisième République.
Oui, parfaitement, parfaitement.
Alors, il y a donc ce ministre de l'Instruction publique qui rayonne jusqu'à nos jours. En revanche, il y a le chef de gouvernement. Le chef de gouvernement, la postérité est pour le coup moins marquée. D'ailleurs, vous divisez légitimement la politique intérieure et la politique extérieure. La politique extérieure révèle un Guizot plutôt entreprenant.
Oui, alors en effet, il faut diviser, n'est-ce pas ? Les moyens de gouvernement n'étaient moins développés en matière de politique intérieure. La politique économique, il a fondé, il a contribué beaucoup à donner le cadre général du capitalisme libéral en expansion à l'époque, mais moins fortement que le Second Empire qui va suivre, n'est-ce pas ? On est encore dans un capitalisme modéré, prudent. Tandis qu'alors, en matière internationale, Guizot, à partir de 1840, lorsqu'il est chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, réalise un renversement de la politique étrangère de la France, c'est-à-dire qu'il abandonne délibérément la tradition guerrière et cocardière de la France, évidemment héritée de la légende impériale, héritée de la Révolution, parce que la Révolution met immédiatement la guerre dans l'Europe entière et déchève, envoie ses troupes convertir les monarchies à côté. Et donc il y a une tradition d'expansionnisme qui est très forte en France, à laquelle la société française tient beaucoup, et il arrive à canaliser cette tradition et à établir un grand renversement en disant « la paix vaut mieux que tout et la politique étrangère de la France sera pacifiste à tout prix ». Et pacifiste grâce à une entente avec la Grande-Bretagne. La clé de l'équilibre et de la paix en Europe, c'est l'entente entre les deux régimes libéraux et parlementaires que sont le régime anglais, le parlementarisme anglais, et le régime de la monarchie de Juillet. Et ça a marché jusqu'en 1848.
Il y a une idée européenne chez Guizot, en tous les cas de concert européen ?
Non, pas de concert européen. L'idée n'est pas encore née. Elle naît en 1848, vous savez, les premières formulations, Victor Hugo. C'est le mouvement de 1848, le mouvement révolutionnaire, qui fait apparaître que les peuples d'Europe pouvaient s'unir. Mais sous la monarchie de Juillet, ce sont vraiment les puissances.
Donc il est plus tourné vers le Congrès de
Vienne. Le concert européen, voilà. Oui, voilà, le concert européen. Mmh. C'est pas tout à fait l'Europe, n'est-ce pas ? C'est même pas vraiment l'Europe.
Alors la politique intérieure, elle, est marquée par l'immobilisme ? On peut utiliser ce terme ?
Pacifisme. Moi, je crois qu'elle est...
Intérieur, pardon.
Alors, en politique intérieure, nous assistons à un renversement, en effet, complètement. C'est qu'il a eu une politique très éclairée, n'est-ce pas, de développement économique, tout de même. Le « enrichissez-vous » n'est pas uniquement... On lui reproche d'avoir dit ça, « enrichissez-vous », mais ce n'est pas uniquement un slogan. C'est qu'il a créé les conditions pour qu'il y ait un enrichissement. Bon, et il a eu lieu. Mais c'est sur le plan de l'évolution politique du régime qu'il a montré une faiblesse difficile à expliquer et qui a entraîné l'échec. La faiblesse est la suivante. Au moment où on développe l'instruction, on généralise l'instruction primaire, au moment où le mouvement 1830 a donné plus de liberté à la presse, on est revenu sur les garanties apportées à la liberté de la presse, mais enfin, la monarchie de Juillet est une période extrêmement vivante du point de vue de la liberté de la presse. Elle s'exprimait avec force et au moment où la société évolue, les transports se multiplient, l'électorat reste réservé à une catégorie extrêmement étroite de la population. Le sens électoral, le rôle politique accordé aux citoyens est limité à ceux qui payent un sens, c'est-à-dire un impôt, qui est l'impôt foncier, donc c'est les propriétaires fonciers, et qui aboutissent à faire un corps électoral de 200 000 personnes, ce qui est extraordinairement peu. Et on constate que c'est très peu parce que pour les élections municipales, par exemple, les conditions de l'électorat ne sont pas les mêmes, et il y a 1 million d'électeurs pour les élections municipales. Il y en a 200 000 pour la Chambre des députés. Et alors c'est extrêmement étroit. Pendant le même temps, l'Angleterre a connu les mêmes problèmes et a procédé par étapes successives en élargissant petit à petit le scrutin de manière à aboutir à une évolution satisfaisante, sans heurts, qui ne débouche pas tout de suite d'ailleurs sur le suffrage universel. Mais en tout cas, l'évolution anglaise est montrée, elle suit un cours et elle se fait par étapes progressives. Pour Guizot, il y a eu un blocage de doctrinaire qui est que un élargissement du suffrage est revendiqué par des forces qui ne souhaitent pas le bien de la société. Et donc, on ne va pas leur donner cette satisfaction. Et il faut réserver le suffrage, le droit politique d'élire des députés, donc la composition de la Chambre, aux gens qui ont vraiment intérêt à la conduite de la société, c'est-à-dire à un corps électoral extraordinairement restreint. Et tout ceci a été renforcé par une habitude un peu française, mais qui existait aussi en Angleterre, qui était de favoriser l'élection de députés qui étaient en même temps des fonctionnaires, et qui étaient nommés par l'État et payés par l'État, n'est-ce pas ? Les gens pouvaient être fonctionnaires dans un ministère plus députés, et pouvaient être ambassadeurs de France dans un pays étranger et députés. Et revenaient, enfin, les députés fonctionnaires ont été une tare de la monarchie de Juillet, et ajouté à l'étroitesse du sens électoral, cela aboutit à un régime extrêmement faible qui n'avait pas la base suffisante simplement pour assurer son équilibre, sa survie. Et on l'a très bien vu au moment, alors à la fin, on aborde l'échec. Il y a eu une succession de crises économiques et de crises agricoles, de dérèglements de la marche de l'économie, de scandales, de faits divers, de choses qui ont montré un mauvais fonctionnement de la société, un dérèglement des élites, et en même temps, une revendication en faveur de l'élargissement du scrutin. Et Guizot a refusé tout élargissement. Tout élargissement. Il y a eu les banquets, ont été un moyen de revendiquer, puisque la liberté d'association n'était pas encore reconnue librement. Et donc, on organisait des banquets, et au cours de ces banquets, chacun payait son écho, d'ailleurs. C'était en cela que c'était permis, parce que ce n'était pas une réunion publique, c'était un banquet qu'on payait. Et alors, il y avait des orateurs enflammés.
Qui portaient des toasts,
et les orateurs demandaient l'élargissement du suffrage. Et alors, ce qu'il faut apprendre aussi, c'est que petit à petit, on a pris l'habitude que le banquet était réservé à ceux qui avaient payé, mais à la fin, au moment du discours, on laissait entrer tout le monde. Alors, ça changeait un peu la nature de la réunion. Et la campagne des banquets a pris de plus en plus d'ampleur, elle est devenue quelque chose de préoccupant, d'agitation, et Guizot n'a jamais voulu faire un pas et n'a jamais voulu élargir le suffrage. Et donc, on s'aperçoit que cette belle construction, parce que le projet politique était le bon, c'était un projet éclairé, mais cette belle construction a révélé une fragilité extrême et s'est écroulée en quelques jours, alors que ce n'était pas prévu et qu'il n'y avait pas de mouvement collectif important. Comme toujours, ce sont les étudiants, les journalistes, à Paris, un mouvement uniquement parisien, qui n'est pas du tout un mouvement populaire large, et qui a entraîné la chute de la monarchie d'Huillet. C'est vraiment une chute, alors c'est un écroulement complet.
Et Tocqueville disait « Revoilà la Révolution », car il s'agit toujours de la même. C'est ce que nous allons voir, Gabriel de Breuil, après cette toute dernière pause. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
1866 est une date clé dans la destinée de Bismarck. La Prusse devient l'Allemagne. Pour Canal Académie, Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste des mondes germaniques, auteur d'une biographie sur l'empereur, nous livre les moments phares de cette année dans l'émission Un jour dans l'histoire. Téléchargez-la sans plus tarder sur canalacademie.com.
Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut, et nous évoquons la vie de Guizot. Gabriel de Breuil, vous avez présidé un colloque organisé à Nîmes par la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine de Nîmes et du Gard, et les actes de ce colloque viennent d'être publiés chez L'Harmattan, des actes réunis par Robert Chambaud-Redon, donc François Guizot, passé présent. Nous avons évoqué Gabriel de Breuil, le doctrinaire, le grand professeur. Nous avons évoqué l'homme politique. Et l'homme politique, au fond, c'est un constat d'échec. Et ce constat d'échec, nous l'avons fait à travers cette idée que Guizot était un doctrinaire et qu'il y avait un décalage donc, entre ce personnage, entre ce qu'il était, son aspiration, et finalement la population parisienne. Est-ce qu'on pourrait développer, Gabriel de Breuil, cet échec politique? Vous le faites à travers votre conclusion du colloque, en comparant l'œuvre de Guizot, la pensée de Guizot sur la Révolution, sur ce 19e siècle, avec celle de Chateaubriand et de Tocqueville.
Oui, il faut s'interroger sur l'échec, n'est-ce pas? Parce qu'un régime politique progressiste, éclairé, s'écroulant en quelques instants, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec à sa tête un des hommes les plus puissants intellectuels très grande, avec toute la capacité, tous ses moyens étaient intacts. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est intéressant en effet de voir comment ont réagi les penseurs politiques qui se sont penchés sur la même question et qui sont proches en effet de Guizot, qui sont Chateaubriand et Tocqueville. Très rapidement, pour Chateaubriand, il a dit ce qu'il concevait. Il a très clairement dit dans plusieurs publications et dans les Mémoires d'Outre-Tombe, et en particulier à la fin des Mémoires d'Outre-Tombe. Chateaubriand dit « Ce qui est arrivé devait arriver. C'est un changement d'âge. Les gouvernements aristocratiques sont passés par plusieurs étapes. L'étape de la fonction elle-même, puis l'étape des privilèges, puis l'étape des vanités. Nous en sommes à l'étape des vanités. Là, l'ère aristocratique est terminée et donc la démocratie prend la place. » Chateaubriand regrettait cette évolution. Il l'a condamné en disant « Mais attention, il y a une erreur profonde qui est faite, c'est que la démocratie n'est rien sans la religion et que les fondements même de la démocratie sont dans le christianisme. » Et à renier cette origine, la démocratie se fourvoie. Mais Chateaubriand, avec ses visions, ses futuritions, il a appelé cette partie des Mémoires d'Outre-Tombe les futuritions. Il a dessiné extrêmement clairement l'avenir, c'est-à-dire qu'il a très bien vu que l'avenir était à la montée de la démocratie et donc les libertés politiques n'avaient plus le même sens, et qu'il fallait faire marcher d'un même pas les moyens d'instruction, les moyens économiques et les libertés politiques, et que cela donnerait lieu à une autre société qu'il décrit sans aucune affection, mais il la décrit, il la voit très bien, et c'est tout le mouvement démocratique du 19e siècle et même du 20e siècle. Donc, il a vu, il a compris, il a prédit, même s'il n'était pas tout à fait d'accord. Tocqueville a vu, a dit aussi que c'était le mouvement démocratique qui allait l'emporter, et il n'a pas fait le lien avec le christianisme, non, le mouvement démocratique avait ses propres racines. En réalité, on sait dans la pensée de Tocqueville qu'il l'a regretté à titre personnel. Et Guizot a invectivé Tocqueville. Guizot n'acceptait pas qu'on se rallie comme ça à la cause démocratique. Et Guizot a dit à Tocqueville, vous êtes un aristocrate qui avait accepté votre défaite. C'était dur. Le cas de Tocqueville, en effet, c'est un aristocrate qui a été ministre de la Deuxième République en 1848, n'est-ce pas ? Tocqueville s'est trouvé en 1848 dans la même situation où Guizot s'était trouvé en 1830, c'est-à-dire propulsé ministre par un mouvement révolutionnaire, avec la volonté de faire progresser un régime démocratique. Il ne l'a pas pu parce qu'il n'avait pas la tempérament d'homme de gouvernement, il n'avait pas la santé d'ailleurs d'un homme de gouvernement, et ça a terminé très vite. Mais en tout cas, il acceptait. Alors Guizot, étant donné ce qui s'est passé, ce pouvoir absolu qu'il a exercé pendant 10 années à la tête du gouvernement et puis 18 ans de participation au gouvernement pendant la monarchie de Juillet, s'effondre. Comment va réagir l'homme qui est encore en pleine possession de ses moyens ? Il ne réagit pas bien. D'abord, il va en exil en Angleterre parce que la Révolution l'a chassé. Il revient très vite. Il se présente aux élections au suffrage universel. Il est battu dans le département du Calvados, où il avait été élu si souvent et très facilement. Mais il est battu par le suffrage universel. Et il publie un livre qui s'appelle « De la démocratie ».
Qui est une réponse.
Qui est sa réponse. Et c'est un livre sévère.
C'est une réponse à Tocqueville ou...
C'est une réponse à Thiers, c'est une réponse à Tocqueville, c'est une réponse à Chateaubriand, si on veut.
Oui.
Vous vous fourvoyez, la démocratie est une idolâtrie. Et donc c'est une erreur. Et donc, il faut la combattre. C'est difficile à entendre et à lire, n'est-ce pas, de nos jours. Alors, c'est très intéressant, il faut analyser cela. D'abord, le livre n'est pas que cela. C'est un livre de dépit, de colère, de quelqu'un qui vient d'être chassé du pouvoir. Et il y a des phrases extrêmement dures et difficiles à comprendre de nos jours. Ça, c'est une petite partie du livre. L'autre partie, c'est une réflexion, on retrouve Guizot, sur les conditions de la paix sociale en France. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas, on est en 48, il y a eu les journées de juin. La paix sociale est de nouveau menacée. On est retombé dans le cycle révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et alors, Guizot réfléchit, il dit, mais attendez, les conditions de la paix sociale en France, il faut rétablir les choses sur les pieds, n'est-ce pas ? On marche sur la tête, il faut remettre les choses sur les pieds. Et donc, alors, il rajoute l'instruction, bien entendu, mais il remet l'idée que la société doit être orientée, dirigée par ses élites, et qu'il faut faire confiance aux gens qui peuvent orienter la société, et que le saut dans le suffrage universel est une erreur, parce que le suffrage universel n'est pas apte à gouverner la société, et il ne faut pas rompre avec la religion, parce que tout régime politique, quel qu'il soit, doit s'appuyer sur des principes généraux. Guizot était protestant, n'est-ce pas ? Il était à la fois très proche, il a mené une politique assez proche du catholicisme, mais enfin, il était protestant convaincu. Et il est favorable à un système à l'anglaise, c'est-à-dire qui fait marcher de pair le progrès parlementaire et libéral avec un respect d'un consensus religieux, disons peut-être un peu tiède, mais en tout cas d'un consensus religieux. Alors, il explique tout ça en disant « tant qu'on n'aura pas rétabli ça, mais les choses ne vont pas marcher en France ». Et son livre sur la démocratie, de la démocratie, est extrêmement négatif et pessimiste. Ce qui est intéressant, alors, c'est que comment est-ce que trois grands esprits ont pu s'interroger de manière aussi profonde sur la montée de la démocratie ? Alors, pour nous, c'est très difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut condamner le mouvement démocratique ? Ça ne se conçoit pas. En réalité, il ne faut pas faire d'anachronisme. Il faut se placer à l'époque où étaient ceux qui étaient des penseurs. Et le mouvement démocratique...
C'était minoritaire.
Le mouvement démocratique, il n'est pas encore arrivé. Ouais. N'est-ce pas ? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et puis, tout ça ne se produit qu'en France. Les autres régimes ne sont pas du tout ébranlés. Et nulle part, il n'est question de mouvement démocratique, ou plutôt, il y a des journées de 1848 dans les différents pays d'Europe, mais ça n'aboutit pas à un renversement de la situation. Donc, l'évidence même du mouvement démocratique n'est pas démontré, n'est-ce pas ? Le mouvement démocratique n'est pas entré dans les faits.
Mais n'est-ce pas là où se trouve précisément le génie de Tocqueville d'avoir vu et compris
ces égalitarismes ? Ce qui n'était pas encore révélé.
Est-ce que vous l'utilisez le terme, je ne veux pas... vous dites « Guizot avait taxé ses adversaires de cécité politique, ne peut-on pas lui retourner un tel reproche ?»
Oui, je crois que le point d'interrogation est en trop. Il faut lui retourner le reproche. Il n'a pas vu, il n'a pas compris... la naissance du mouvement démocratique. Et il faut dire qu'il a été un peu maladroit et un peu brusque en 1848, et que le saut dans le suffrage universel, c'est pas, d'un point de vue rationnel, n'est-ce pas, c'est pas exactement la meilleure manière, d'ailleurs on l'a montré, le résultat a été là. Le saut dans le suffrage universel n'était pas préparé, et il manquait les lumières du corps électoral, qui a été plongé dans un exercice auquel il n'était pas prêt. Et il manquait l'encadrement par les partis, il manquait une procédure électorale bien faite, n'est-ce pas ? Qui fait que les premières élections ont été tout à fait conservatrices. On a eu une chambre très conservatrice parce que les élites locales ont repris leur rôle et leur pouvoir et ont été élues dans une large mesure. Et puis deuxièmement, à la première occasion, le suffrage universel est tombé dans le plébiscitaire, n'est-ce pas, le plébiscite, c'est-à-dire l'accord à un régime autoritaire et la confiscation de la liberté politique. Donc ce n'est pas une expérience magnifique.
Votre conférence à l'Académie des sciences morales et politiques, donc dans le cadre du cycle « Peut-on faire confiance aux historiens ?», vous reprenez une phrase de Sainte-Beuve, vous dites « L'histoire vue à distance produit une illusion, la pire de toutes, celle qu'on la croit raisonnable. Cette faculté merveilleuse de sérénité, cet art souverain de conférer aux choses une apparente simplicité, une évidence décevante et qui n'était que dans l'idée, a été une des principales causes de l'illusion qui a perdu le dernier régime, donc qui a perdu Guizot. Guizot croyait trop en l'histoire et pas assez au présent.
Alors, dans Sainte-Beuve, n'est-ce pas, il y a deux choses. Il y a ce que vous dites et puis il y a l'erreur de vue, l'erreur de l'accommodation qui ne se fait pas. Et je crois que c'est presque médical ce qui est arrivé à Guizot, c'est qu'il n'a pas vu, il était presbyte, ou enfin je ne sais pas s'il faut dire myope ou presbyte, mais en tout cas myope plutôt, il n'a pas vu arriver. Alors, est-ce que c'est à cause de l'histoire ? Est-ce que c'est son immense culture historique qui l'a rendu aveugle ? Moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt son côté doctrinaire qu'il avait puissamment ancré en lui, et qui a fait que son système n'incluait pas au départ un paramètre tout de même relativement important qui était l'arrivée du mouvement démocratique. Il ne l'a pas intégré.
Eh bien, c'est sur cette idée que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Gabriel De Breuil, d'être venu à ce micro pour nous parler de ce personnage si extraordinaire, François Guizot, passé, présent, donc les actes du colloque réunis par Robert Chamboredon, de la Société d'histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, paru chez L'Harmattan. Et je me suis servi également pour faire cette émission du livre dirigé par Jean Tullard, « Peut-on faire confiance aux historiens ?» point d'interrogation, dans la collection de l'Académie des sciences morales et politiques, paru chez PUF, donc aux presses universitaires de France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.